fort de ça, on s'est dit c'est bon, on va y arriver. C'est bon, franchement, le truc est détente, ça passe crème, c'est sûr qu'on va y arriver. Et c'est là où mon frère m'a dit c'est sûr qu'on va y arriver. Et du coup, moi, en toute insouciance, j'ai envoyé un mail à toute ma boîte pour leur dire que je démissionnais le soir même. Je pense qu'ils ont dû garder le mail encore. Un mail où je leur dis que je pars conquérir le monde. Enfin, un mail de jeunes de 20 ans qui sait pas encore dans quoi ils s'embarquent. Et c'est vraiment là que les choses sérieuses ont commencé.
Bienvenue dans la galère. Vous écoutez le podcast qui décrypte comment les entrepreneurs des plus belles startups se sont débrouillés au début de leur aventure. On parle des galères, de la débrouille des premiers mois, des détails pour convaincre ses premiers clients et de toutes ces différences entre le succès et l'échec d'une startup. Je suis Pierre Pratt, partenaire chez Start the Fuck Up, le studio d'innovation qui accompagne les entrepreneurs et les grands groupes à lancer des startups. Pour en savoir plus, rendez-vous sur stfu.pro. Et si vous aimez ce qu'on fait, pensez à vous abonner sur Apple Podcasts et nous donner 5 étoiles afin d'aider d'autres personnes à découvrir nos épisodes. Bonne écoute.
Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en 5 semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro/flash, F-L-A-S-H. À très vite et bonne écoute.
Salut Bruno.
Salut Pierre.
Je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui et puis merci de m'accueillir dans ton appartement pour ce podcast.
C'est un plaisir.
Donc tu es Bruno Lussato et tu es le cofondateur de Wistiki.
C'est exactement ça.
Ok, donc pour l'anecdote, on se connaît un petit peu, on était ensemble il y a 10 jours pour accompagner un groupe du 440 parce que tu fais partie de notre communauté d'entrepreneurs chez Start the Fuck Up. Est-ce que je peux te demander de te présenter ?
Bien sûr. Donc comme tu l'as dit, je m'appelle Bruno Lussato j'ai cofondé une startup qui s'appelle Wistiki. Et Wistiki, c'est une société qui fait des petits objets connectés pour retrouver ses affaires.
Ok, très bien. Alors plus exactement, qu'est-ce que c'est Wistiki et comment ça fonctionne ?
Alors, donc en fait... En 2013, mes deux frères et moi, on était des grands étourdis. Et en fait, on s'est dit, ce serait quand même génial d'inventer un objet qui permette aux gens de retrouver ses affaires. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'inventer un petit accessoire connecté qui fonctionne avec du Bluetooth, qu'on peut mettre sur ses clés, sur son portefeuille ou même sur son chat. Nous, on l'a mis sur notre chat, tu vois. Et le principe, c'est que depuis une application smartphone, tu vas pouvoir faire principalement deux choses. Tu vas pouvoir, dans un rayon d'une cinquantaine de mètres, tu vas pouvoir faire sonner ton Wistiki depuis ton smartphone. Et tu vas également pouvoir, là, partout, le géolocaliser.
D'accord, ok. Donc, ça fonctionne en Bluetooth. Et l'idée, c'est que c'est un GPS un petit peu communautaire.
C'est exactement ça. Donc, en fait, l'innovation de Wistiki est dans le GPS, dans la technologie du GPS. On n'a pas de puce GPS à l'intérieur du produit, on a uniquement une puce Bluetooth. Et le principe, c'est que toutes les personnes qui téléchargent l'application Wistiki deviennent des antennes Bluetooth, en fait, des antennes relais. Ce qui fait que si tu perds ton Wistiki finalement dans un taxi, le taxi se déplace à proximité d'une personne qui elle-même a téléchargé l'application Wistiki, ben en fait, le smartphone de cette personne va de manière complètement passive actualiser la nouvelle position GPS du Wistiki. Ce qui fait qu'en fait, plus tu as de personnes qui ont acheté des Wistiki et donc téléchargé l'application Wistiki, plus ton GPS communautaire est précis. Et l'avantage de ça, pourquoi on a fait ça, c'est qu'en fait, ça permet d'avoir un produit qui coûte très peu cher, 29€, et surtout qui n'a pas d'abonnement. Donc c'était complètement révolutionnaire par rapport à tout ce qui se faisait en termes de balises GPS auparavant, où ça te coûtait 150 balles, et t'avais un abonnement de 10€ par mois, et personne ne le faisait. Donc nous, notre intuition, c'était qu'avec ça, on pourrait vraiment faire un produit qui soit vraiment mass market et qui intéresse vraiment tous les gens qui perdent leurs affaires parce qu'on s'est dit que c'était un budget plutôt qui nous semblait raisonnable.
Ok, donc projet complètement fou. Bon, ce que tu...
Alors, on le savait pas au moment de le lancer.
C'est ce que j'allais dire, c'est un petit peu storytellé là. Moi, l'idée de comprendre d'où elle vient cette idée en fait et comment vous avez découvert qu'il y avait un pain utilisateur dans le fait de perdre ces objets.
En fait, je vais te dire, je vais être tout à fait transparent avec toi, on n'a pas fait d'études de marché. on a fait absolument aucune étude de marché. Et en fait, en réalité, c'était un besoin qu'on ressentait nous en tant que qu'utilisateurs. Nous, on perdait nos affaires. Et je crois que c'est mon frère Théo qui un jour, en rigolant, a dit tiens, ce serait rigolo. L'anecdote de base, en fait, c'était au-delà du fait qu'on est étourdi, c'est on a un chat. Et mon frère un jour a dû dire tiens, ce serait rigolo de faire sonner le chat. Je sais pas comment on en est arrivé là, mais il a dit ça. Et de fil en aiguille, mon frère qui était mon petit frère Hugo, qui était centralien à l'époque, qui était étudiant en première année de centrale, il avait un projet d'électronique embarqué à faire dans le cadre de ses études. Et il a commencé à s'intéresser à la possibilité de faire sonner notre chat via de l'électronique embarquée qu'on pourrait mettre sur notre chat.
Ok, donc t'es en train de me dire que Wistiki, la genèse de Wistiki vient dans le fait de vouloir faire sonner son chat.
Écoute, oui. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors après, tu dis comment c'est né. Évidemment, ça c'est l'anecdote. Et c'est l'anecdote et ça s'est vraiment produit comme ça. Mais si on en est arrivé à vraiment ensuite transformer ça en une société, c'est parce que vraiment nous trois, en tant que, j'ai envie de dire, en tant qu'utilisateurs, une fois que, parce que ça a fonctionné, une fois qu'on a réussi à faire ce petit accessoire pour faire sonner notre chat, ce qu'on a vraiment fait, hein, on a encore des photos aujourd'hui de notre chat, je pourrais te les faire passer, ce sera rigolo, si tu peux les mettre sur, en lien sur ton podcast. Mais une fois qu'on a fait ça, on s'est dit, mais en fait, c'est utile pour plein d'autres use cases. On peut mettre ça sur ses clés, dans la boîte à gants de sa voiture, pour se souvenir, on a garé sa voiture, et on s'est dit, mais nous aussi, pour notre quotidien, ça pourrait nous servir pour retrouver plein d'affaires. Et c'est comme ça, en fait, que c'est devenu une société. C'est parti d'une anecdote, en fait, hein, en réalité. Mais le truc ne s'est jamais arrêté.
Oui,
et
puis vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup d'étourdis, en fait.
Et exactement. Les étourdis sont partout, en France et à l'international aussi.
Est-ce que tu peux un petit peu m'expliquer comment tout a commencé? Qu'est-ce que la genèse de Wistiki? Tu m'as parlé de tes frères, donc c'est une société que tu as cofondée avec tes frères.
Oui. Écoute, quand on a eu cette idée, mes deux frères étaient étudiants. Hugo était étudiant à Centrale Lyon. Et moi, Hugo était étudiant à Centrale Lyon, pardon. Théo était étudiant à l'EDEC en dernière année. Et moi, je venais juste de rentrer dans les vies actives, dans un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle TNO Advisors, toujours aujourd'hui. Et donc, j'étais pris en CDI. J'étais tout à fait content de ce job. Et j'ai toujours voulu créer ma boîte. Je sais pas pourquoi. Je me demande pas pourquoi. C'est vraiment un truc que voilà, j'ai toujours ressenti ce besoin sur moi parce que pour la liberté que ça apporte, pour le désir de créer vraiment et de bâtir quelque chose de rien, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné.
Tu viens d'une famille d'entrepreneurs ?
Pas particulièrement. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je pense que j'ai voulu créer ma boîte alors même que je savais pas ce que c'était qu'une boîte, tu vois. Donc c'est vraiment plus que créer la boîte, c'est vraiment philosophique.
Ouais, je vois.
C'est vraiment philosophique. Voilà, donc moi j'étais ça faisait peut-être 9 mois que je travaillais dans ce cabinet de conseil en stratégie et c'était à ce moment-là qu'on a eu l'idée avec mes frères. Et là, je pense que c'est vraiment l'insouciance de la jeunesse et de vraiment pas savoir justement dans quelle folie on s'embarquait. Je vais voir mon petit frère Hugo qui était en première année de centrale un soir. Je lui dis tu penses qu'on va y arriver à faire ce produit? Moi, je m'adresse à lui en tant qu'ingénieur, tu vois. Et il me dit ouais on va y arriver, franchement aucun doute. Il m'a dit par la suite qu'en fait il en savait rien, mais il me dit là ok c'est sûr qu'on va y arriver. Je fais ok.
Donc tu m'as parlé de l'idée, tu me parles du fait que t'es allé le voir. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 9 mois, ces 9 premiers mois de premier CDI? Vous avez prototypé?
Alors non, il faut que... Donc du coup, je t'ai mal fait la chronologie. C'est-à-dire qu'en fait, moi, au moment où on a eu l'idée, ça faisait, je pense, à peu près 7-8 mois ou 9 mois que j'étais dans cette entreprise.
D'accord.
Donc là, je te parle vraiment, là, je te parle encore des 2-3 semaines durant lesquelles l'idée venait d'arriver.
D'accord.
Et ça a été très rapide. Dans ces 2-3 semaines-là, c'est ça la discussion dont je te parle. Ça faisait 2-3 semaines qu'on avait eu l'idée. Donc on brainstormait, Hugo avait regardé un petit peu le prototype qu'il avait fait à Centrale, c'en était pas vraiment un, c'était juste, ouais, globalement, ça marche. Il avait fait des recherches et il avait, en fait, c'était l'époque où le Bluetooth était en train d'émerger vraiment.
2013, c'est ça?
2013, c'est ça. Et je crois qu'il avait dû commander, chez un fabricant de puces électroniques, un module, en fait, pour coder directement sur le module des fonctionnalités de base qui ressembleraient au tracker qu'on concevrait, mais ce n'était pas du tout le tracker. C'était un gros module qui faisait 25 cm sur 25 cm.
Donc pas possible de le mettre sur un chat.
Voilà, exactement, avec une plateforme que le fabricant de puces électroniques nous fournissait, depuis lequel on pouvait de manière très intuitive coder des choses.
D'accord.
Et fort de ça, on s'est dit c'est bon, on va y arriver. C'est bon, franchement, le truc est détente, ça passe crème, c'est sûr qu'on va y arriver. Et c'est là où mon frère m'a dit c'est sûr qu'on va y arriver. Et du coup, moi, en toute insouciance, j'ai envoyé un mail à toute ma boîte pour leur dire que je démissionnais le soir même. Je pense qu'ils ont dû garder le mail encore. Un mail où je leur dis que je pars conquérir le monde. Enfin, un mail de jeunes de 20 ans qui sait pas encore dans quoi ils s'embarquent. Et c'est vraiment là que les choses sérieuses ont commencé. Parce que c'est à ce moment-là que, du coup, mes frères et moi, on s'est dit, OK, on se met à temps plein sur ce projet. On va vraiment en faire... une société.
Donc, tu es en train de me dire que ton frère a prototypé la V1 ou la V0 de Wistiki qui fonctionnait pas vraiment et qui était une brique agglomérée de plusieurs technos qui vous étaient pas propres, et t'as envoyé un mail à toute ta boîte pour leur dire que tu démissionnais et que t'allais monter cette boîte.
C'est exactement ça. Et je vais même te dire un peu plus...
C'est incroyable cette
c'est
histoire.
C'est encore un tout petit peu plus fou ce que j'ai fait, parce qu'en fait, en réalité... on a été très rapide entre l'idée et l'exécution, parce qu'on a eu l'idée et quelques semaines plus tard, à peu près à cette période-là justement, on était déjà sur une plateforme de financement participatif qui s'appelait My Major Company à l'époque, qui est un peu moins présente aujourd'hui. Elle a été remplacée par les Ulule Unco. Et on avait présenté notre projet en fait sur My Major Company, et je crois qu'on avait, au moment où j'ai envoyé mon mail pour expliquer le projet de conquête du monde, on avait récolté 800 euros, je crois, tu vois. Donc, on était vraiment, c'était vraiment, le projet était une idée, en fait, hein. C'était, le projet Wistiki à ce moment-là, c'était juste notre volonté, en réalité. Mais on le savait pas encore. Mais en réalité, on n'avait absolument rien.
Financement participatif qui a ensuite battu un record de fonds. En France, vous êtes la société à date qui a récolté le plus de fonds en financement participatif. C'était ce financement participatif sur My Major Company.
Alors, en effet, à l'époque, quand on s'est lancé sur My Major Company, ça, très rapidement, à l'époque, on avait fait 80 000 euros. Et ça a été, en fait, très vite le plus gros financement participatif pour une start-up qui se lançait dans cette démarche-là. Et par la suite, on a refait d'autres financements participatifs, on a battu d'autres records. On en a refait un en France sur My Major Company deux années plus tard. Et un peu plus tard, quand on s'est lancé au Japon, on a eu l'idée folle de faire un financement participatif au Japon. Je ne demande pas pourquoi. On a commencé par se déployer au Japon avant la Belgique.
Demandez-moi.
Je ne sais pas pourquoi. Mais ça a aussi très bien marché au Japon. Mais en effet, on a vraiment un ADN de financement participatif, parce qu'on pense que c'est absolument clé d'avoir l'adhésion du consommateur, et en plus ça te permet de te financer, donc c'était nous, à ce moment particulier du projet, c'était super pertinent de faire du financement participatif.
Oui, bien sûr. Et puis ce que je te disais en introduction, c'est que en fait votre système est un système communautaire, donc rien de mieux que de se faire financer par du financement participatif pour des systèmes qui sont communautaires.
Exactement. Et ça permet également de montrer à tous les potentiels investisseurs justement de ta société que tu es capable de faire du chiffre d'affaires.
Oui, bien sûr.
Ce qui permet de mettre le rapport de force de ton côté quand tu fais ta levée de fonds par la suite.
Qu'est-ce que vous aviez présenté lors de ce financement participatif? Qu'est-ce que c'était? C'était un prototype, ce fameux prototype de 25 cm, ou ça avait un petit peu plus évolué?
Non, ce qu'on a présenté, c'est la vision de ce qu'on voulait faire. En gros, on avait quand même travaillé un film qu'on peut encore trouver aujourd'hui, je pense, sur YouTube, qui présentait la vision du produit, avec un petit film de marketing de 2-3 minutes, où l'acteur principal est mon frère Hugo et mon chat. Donc la vidéo est vraiment très rigolo. C'est vraiment cette vidéo qui nous a fait buzzer en premier. Je sais pas, on a dû faire 200-300 000 vues, toi, quand même, alors qu'on n'avait aucun budget marketing. Et j'ai oublié ta question, tu vois.
Tout est parti de la vidéo. Je te demandais ce que t'avais présenté.
Ouais, en fait, en gros, on a présenté la vidéo qui était notre vision, une roadmap de comment on voyait les choses. Bon, on a mal, enfin voilà, après on, c'était compliqué d'honorer cette roadmap parce qu'on avait, encore une fois, on avait l'insouciance de la jeunesse et on savait absolument pas en réalité combien de temps ça prendrait. Mais voilà, on a présenté une vision, une roadmap, et surtout une équipe et une volonté, hein, en fait, hein, le crowdfunding c'est vraiment ça, c'est les gens, ils veulent embarquer dans une aventure et te suivre dans cette aventure là et on a fini par délivrer ce qu'on avait promis qu'on délivrerait, mais ça a été extrêmement bien plus compliqué que ce qu'on aurait imaginé au début, mais une aventure absolument extraordinaire.
Parce que vous ne pensiez pas pouvoir passer du prototype de 25 cm à cette petite carte. Moi, j'ai fait partie de ce financement participatif, j'en avais acheté une. C'était un petit carré. Pour passer de 25 cm sur 25 cm à un petit carré, ça a pris plus de temps que prévu. Enfin, quand je dis un petit carré, pour que les gens se rendent compte, ça fait quoi? Ça fait la taille
La taille d'une, un peu plus gros qu'une pièce de l'équivalent d'une pièce et demie de 2 euros, tu vois. C'est vraiment, mais c'était quand même assez petit, hein, finalement. Une grosse pièce de 2 euros. Donc, ça reste quand même un objet assez compact, hein, qu'on a réussi à faire. Écoute, je dirais la réalité. En fait, Hugo a réussi à prototyper assez rapidement, en fait, le produit. Ce qui était plus compliqué, c'est d'industrialiser. Donc pour ceux qui connaissent pas trop le jargon, quand tu prototypes, c'est vraiment tu frappais qu'en fait t'avais zéro du produit en un seul exemplaire, en fait, que tu fais ça à la main un petit peu, et tu réalises que oui, c'est possible de faire ce produit et que ça marche.
Mais après, le déployer à l'échelle.
Alors, ensuite, il faut le dupliquer. Et nous, il a fallu le dupliquer très rapidement à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, ce qu'on avait absolument pas prévu. Nous, on s'était dit peut-être qu'au début, on va en vendre 100. Mais non, il a dû falloir en vendre des dizaines de milliers. Donc c'est et on rentre dans des problématiques d'industrialisation complexes.
Directement, c'est-à-dire avec, tu m'as dit 80 000 euros sur le premier financement participatif. Ça faisait combien de whisky? Ça faisait combien de boîtiers?
Je pense que ça devait faire un truc comme 4 000 produits, mais on était ambitieux, donc on s'était dit si on en a vendu 4 000 en quelques semaines, notre premier batch, il faut que ce soit quelques dizaines de milliers. Ce qui était aussi un peu fou, parce que en réalité, ça monopolise énormément de BFR de décider de fabriquer très vite 50 000 produits, ce qui est ce qu'on a fait. Et ça nous a mis dans une situation financière qui n'était pas forcément évidente.
Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça a été ta réaction quand t'as vu ta première vente, la première personne qui a participé au financement participatif avec tes frères?
Écoute, la première vente, c'est toujours un moment absolument extraordinaire. Parce que tu commences par en parler à tous tes amis, à ta famille. Voilà, les premières ventes, c'est toi, en réalité. t'en fais quelques-unes pour ton projet, il fasse pas trop pitié, tu vois. Donc au début, tu fais 4-5 ventes avec ta propre carte de crédit. Ensuite, tu vas voir tes amis, ta famille. Tu les convaincs et ils sont gentils et ils achètent un produit. Ensuite, t'en parles à tes... Nous, ce qu'on avait fait au début, on s'était dit ça va buzzer. On s'est dit, on va en parler à tout le monde sur Facebook. On va demander à tout le monde de partager sur Facebook. Mais en réalité, c'est assez compliqué de convaincre les gens de partager sur Facebook de manière complètement virale. T'as forcément quelques amis qui vont le faire. Mais vraiment, créer le buzz sur Facebook, sur les réseaux sociaux, en tout cas, ça n'a pas du tout l'effet escompté. C'est pas du tout de ça qu'on a décollé. Non, je pense que c'est vraiment nos premiers médias qui nous ont permis d'atteindre le troisième cercle, en fait, hein, vraiment le cercle des gens qu'on ne connaissait pas. Et c'est vraiment les médias locaux. Nous, on avait vraiment eu un angle un petit peu régional, vu que j'avais fait, Théo et moi, on avait fait les decks. On avait utilisé l'angle régional de la région de Lille pour expliquer que voilà, il y avait des étudiants de Lille qui lançaient leur projet. Pareil à Lyon. Vu qu'Hugo, il avait fait Centre à Lyon, on avait essayé de convaincre la presse régionale, et la presse régionale avait été vraiment très réceptive à notre projet.
Très, très concrètement, quand tu dis on avait essayé de convaincre, c'est vous aviez trouvé des adresses de journalistes, vous leur aviez envoyé des mails.
Ouais, au début c'est ça. Au début tu te débrouilles pour trouver des adresses de journalistes à droite à gauche, leur parler sur LinkedIn. Nous on a un peu plus tard même, on avait même fait des trombinoscopes de journalistes pour aller les chercher à la sortie de leur bureau. Donc on était allé assez loin dans le truc. Faut essayer d'être un petit peu innovant. Mais oui, globalement c'est ça. Il faut vraiment. On n'avait pas du tout d'agence de relations presse, de choses comme ça. Et d'ailleurs à chaque fois qu'on utilisait des... Alors, y a sûrement des agences de relations presse qui sont super performantes, mais nous, à chaque fois qu'on en a utilisé par la suite, on n'a pas forcément été convaincus. Et moi, ma recommandation, en tout cas, quand on se lance, c'est vraiment de le faire soi-même, parce qu'en fait, l'énergie de l'entrepreneur, je pense que c'est toi qui l'as. Donc, aucune agence de relations presse, aussi sérieuse qu'elle soit, pourra vraiment retranscrire ça. Donc non, on a fait ça vraiment nous-mêmes avec nos petits muscles, et c'est vraiment un premier article qui nous a permis en fait d'avoir cette première vente de la personne qu'on ne connaît pas. Et là, tu restes devant ton écran et tu dis mais c'est pas possible, il y a quelqu'un que je ne connais pas qui a acheté mon produit. C'est absolument extraordinaire. Et c'est la meilleure vente, quoi. C'est la meilleure vente.
Ouais, je te rejoins assez sur le fait que l'entrepreneur doit être le premier vendeur dans sa boîte. Nous, chez Start the Fuck Up, il nous arrive de recevoir des entrepreneurs qui ne veulent pas vendre leurs produits parce que c'est des techniciens, parce que c'est des devs, et ils pensent pas avoir cette capacité de faire la vente du produit. Mais en réalité, c'est toujours l'entrepreneur, celui qui conçoit et qui exécute, qui a la meilleure vision et qui sera le plus à même de vendre le produit.
Eh ben, je suis 100% d'accord. Je suis 100% d'accord. Alors après, voilà, il y a plein de types d'entrepreneurs. Hein. Ça, nous, mes frères et moi, on était quand même très... on aime bien ça. On aime bien vendre. C'est quelque chose qui nous plaît. Après, il y a plein d'entrepreneurs qui ont des backgrounds peut-être plus ingénieurs. Mon frère ingénieur aime bien ça aussi. Mais il y a plein de gens qui n'aiment pas forcément ça. Et dans ce cas-là, je recommanderais de s'associer avec quelqu'un qui aime ça. Parce que c'est quand même important qu'à un moment il y ait une voix d'un des cofondateurs qui puisse porter le projet.
Oui, quand je dis entrepreneur, c'est founder, co-founder. Enfin, c'est vraiment l'équipe core qui va lancer le projet. Ok, donc vous finissez ce financement participatif de 80 000 euros. Tes frères sont 100% dans le projet, ils sont encore en études.
Donc globalement, très rapidement, on est passé tous les trois à temps plein. Très vite.
Donc ils ont arrêté leurs études.
Hugo a arrêté son. Théo était en dernière année de l'EDEC, donc il a pu finir. C'est à quelques semaines près, il était bon pour finir ses études. Et Hugo, à la fin de sa première année, a quitté Central pour créer sa boîte. Ouais. Enfin, même pas à la fin, en cours d'année. Enfin, il a tout quitté. Ce qui était, ce qui montrait également sa détermination. Et l'intuition qu'on avait qu'il y avait vraiment quelque chose de fou à faire. Alors par la suite, il a obtenu un diplôme parce qu'il a fait ensuite à distance un certain nombre de choses. Mais à ce moment-là de son parcours, il a en effet tout abandonné.
Qu'est-ce que c'était son cheminement pour arriver à ça ? Je comprends, il voulait rejoindre ses deux frères sur un projet qui est assez fou, mais se dire j'arrête Central en première année. Pour monter ma boîte, c'est quand même un cheminement qui est particulier.
Écoute, il faudrait lui demander. Je suis pas dans sa tête, mais moi, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu forcément de cheminement, justement. Hein. Ce truc nous a un peu tombé dessus. Je pense sincèrement qu'un mois avant de créer notre société, on savait pas du tout qu'on créerait cette boîte. C'est juste un moment. Il y a eu une sorte. Dans la vie, des fois, il y a des alignements de planètes qui arrivent, et tu savais pas forcément deux semaines avant que cet alignement des planètes arriverait. En fait, et c'est juste qu'à un moment, nous, il y a eu un alignement des planètes. On s'est dit, on est les trois frères là, on se fait confiance, on est ultra complémentaires dans nos personnalités et dans nos compétences. On a cette idée. On est tous les trois à des moments où de nos vies où c'est potentiellement possible de tout claquer pour le faire. On a la niaque. Let's go. C'est juste en fait plus qu'un cheminement, c'est plus une intuition. Voilà, il faut quand même le faire, quoi. Faut vraiment.
Oui, il faut quand même le faire. C'est.
Avoir les couilles, j'ai envie de dire. Enfin, vraiment. Voilà, il fallait quand même le faire. C'est qu'aujourd'hui, je le dis, voilà, on l'a fait, mais en vrai, sur le coup, on va pas se mentir. Il faut le faire quand même, parce que, on abandonne tout pour se lancer dans un projet où, à ce moment de le faire, c'est l'inconnu total.
Mais c'est aussi dans ce moment-là où on donne le meilleur de soi-même.
Évidemment. Mais voilà, à ce moment-là, il n'y a pas du tout autant de gens qu'aujourd'hui qui croyaient au projet. Hein. C'est toujours comme ça.
Oui, bien sûr.
Il fallait vraiment une très forte détermination, ce qu'on a eu tous les trois.
Qu'est-ce qui s'est passé après ? Vous avez fait le tour des industriels français pour réussir à trouver un fabricant, des fournisseurs ?
Tout à fait. En fait, alors on a eu la volonté dès le début de faire un produit qui était 100% made in France. C'est quelque chose qui était vraiment important pour nous pour deux raisons. Déjà, la première, c'était quand même la volonté de concevoir, pour des raisons philosophiques, notre produit en France, pour participer à notre petite échelle, avec nos petits muscles, la réindustrialisation de la France. Car on se disait que si tous les entrepreneurs faisaient comme nous, ça pouvait vraiment avoir un impact. Et le deuxième point, c'était pour des raisons plus terre à terre. On pensait que c'était beaucoup plus simple pour des entrepreneurs comme nous qui n'avaient absolument aucune expérience d'identifier et de manager un industriel français depuis la France, plutôt que de partir à Shenzhen ou en Chine comme tout le monde. Donc c'était notre démarche.
Si tout le monde le fait, c'est pas que c'est plus simple potentiellement.
Peut-être. Hein. Je t'ai dit, nous on n'avait aucune expérience, donc en fait on a fait ça. Aujourd'hui, je me rends compte qu'on est les seuls à l'avoir fait, donc peut-être c'était mieux. En tout cas, nous on a eu une très bonne expérience avec nos industriels français, et ça s'est vraiment bien passé. Ce que je peux dire, c'est qu'au début, ça a été particulièrement une épreuve compliquée, une de nos plus grosses épreuves, je pense, de trouver le bon industriel. Car en fait, quand tu vas voir un industriel et que tu es un jeune projet,
on te claque beaucoup de portes.
Ouais, en fait, en gros, il y a deux possibilités. Soit les mecs se disent, ok, le truc ne va pas marcher, du coup, je leur réponds pas, ou alors je leur réponds, mais pour leur faire plaisir, mais jamais je travaillerai avec eux. Soit ils se disent, ça va quand même pas marcher. Enfin, ils se disent jamais que ça va marcher. C'est compliqué qu'ils se disent que ça va marcher. Soit ça va pas marcher, mais du coup, quand même, je vais travailler avec eux, je vais les arnaquer. Je vais leur vendre une étude, j'exagère, je veux pas arnaquer, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, je vais bien leur faire un gros devis pour au moins que je puisse me goinfrer sur la partie un petit peu prototypage industriel, parce que je ne crois pas particulièrement en le fait qu'ils vont conquérir le monde.
Et c'est uniforme pour tous les industriels que vous avez rencontrés? Vous n'avez pas eu
Heureusement non, parce qu'on a fini par en trouver un. Maintenant, je te dis globalement. Globalement, c'était ça. Alors après, heureusement, on a fini par convaincre un industriel, puis d'autres, parce qu'après, on a diversifié nos risques, on a fait beaucoup de volume. On a fini par convaincre un industriel qui s'appelle BMS Circuits, qui est toujours un de nos partenaires principaux. Lui, on l'a vraiment convaincu. Il y a cru. On lui a dit, voilà, on va y aller.
Donc, vous y êtes allé à trois frères.
Ouais,
en expliquant votre histoire, exactement. Que vous avez claqué la porte de vos études, que vous avez claqué la porte de votre job, votre financement participatif.
Ça arrive, tu connais pas le jargon industriel, tu connais rien du tout, alors tu vas un peu sur Google pour essayer de comprendre les mots qu'il faut dire pour faire un peu sérieux. Et là, t'as que des ingénieurs qui te posent des questions techniques sur ton cahier des charges, et t'as pas du tout les réponses techniques. Et t'y vas au culot. Tu leur dis, voilà, nous, on va faire ça, on va y arriver. Est-ce que vous en êtes ou pas? Et eux, on les a convaincus. Eux, ils ont dit, ok, on y va.
Là,
on
et ils vous prend. Ont pas fait un gros
non, non, ils ont été réglo, et on est parti avec eux. Ils ont pris un vrai risque. Ils ont pris un vrai risque. Alors après, aujourd'hui, ils le regrettent pas. Ils le regrettent pas du tout. Mais à ce moment-là, c'était un vrai risque qu'ils prenaient. Et on est parti avec eux, et ça s'est super bien passé. Mais ensuite, une fois qu'on est parti avec eux, évidemment, il y a eu plein de rebondissements. Il y a plein de rebondissements parce que, et ça c'est pour la conception de tout produit électronique, c'est comme ça. Il y a des complexités qui arrivent en cours de chemin. Tu crois que tu vas mettre 3 mois à faire ton produit, en vrai tu mets 9 mois, et encore 9 mois c'était un record. Normalement tu dois mettre 18 mois. Il y a plein de phases, il y a des logiques de ramp-up industriel, bref, que des choses dont on ne connaissait absolument rien, qu'on a découvert sur le tas. Mais vu que nous sur My Major Company on n'y connaissait rien et on avait mis notre roadmap avant même d'aller voir les premiers industriels, forcément, on a eu énormément de retard.
Donc, c'était une roadmap à 3 mois, 6 mois?
Nous, je sais plus, mais sur ma même genre compagnie, on avait eu peut-être mettre une roadmap à 4 mois, tu vois. Et sincèrement, on pensait qu'on y arriverait. Vraiment. Enfin, mais en réalité, je pense qu'on a dû mettre près d'un an à délivrer nos produits. Et un an, aujourd'hui, avec le recul, c'est un record. Avec du recul, c'est incroyable qu'on ait mis un an entre l'idée et la phase d'industrialisation mass market de notre produit. Un an plus tard, on était à la Fnac. Là, c'est vraiment absolument
on va y revenir.
Incroyable, avec du recul.
Comment vous avez géré les attentes de ces clients qui avaient participé au financement participatif, qui pensaient, j'imagine en tout cas, recevoir l'objet dans les 4 mois et qui ont dû attendre un an?
Écoute, c'était un moment vraiment dur pour nous. Car on était extrêmement motivés, on avait la niaque, on mettait toute notre énergie à la conception de ce produit. Et vu qu'on n'avait pas pignon sur rue, j'ai envie de dire, Il y a des gens qui, voilà, sur les réseaux sociaux, sur on avait quand même une grosse présence, qui ont commencé à dire mais les produits n'arriveront jamais.
C'est une arnaque.
Heureusement, c'était pas la majorité, mais il y avait des gens qui se faisaient entendre et qui disaient ça. Et pour nous, c'était très dur. C'était très dur parce qu'à côté de ça, on passait notre vie à faire en sorte que ces produits sortent de terre. Donc du coup, à ce moment-là, on a dû gérer notre, on a appris ce que c'était que la e-réputation. On a dû commencer à gérer notre e-réputation et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris attache avec les gens qui étaient pas satisfaits. On a eu une démarche proactive d'expliquer aux gens via des newsletters où on en était dans notre démarche, pourquoi on avait du retard. On envoyait des photos de comment se passait l'industrialisation de notre produit pour rassurer les gens. Et globalement, quand les gens sont rassurés, ils sont compréhensifs.
Donc quand tu dis pré-attache, c'est en complément de ces photos de l'industrialisation, en complément de ces newsletters, vous avez contacté les personnes une par une pour leur expliquer pourquoi.
Les gens qui n'étaient pas satisfaits, on les contactait, ouais. On les contactait évidemment. Et ceux qui ne nous disaient rien, on était quand même proactifs pour les contacter et leur expliquer la raison pour laquelle il y avait du retard. Et à partir du moment en fait où on a pris les devants, à partir du moment où on a pris les devants et où on expliquait là où on en était, en fait, les gens sont compréhensifs. Les gens, ce qu'ils aiment pas, c'est ne pas comprendre, avoir le doute, peut-être ils se sont fait arnaquer. Mais à partir du moment où ils comprennent, voilà, où on en est, on les tient au courant, les gens, ils te soutiennent, en fait. Les gens sont humains.
Oui, bien sûr.
Et à partir de quand on a compris vraiment ça, ça s'est bien passé. Mais voilà, au début, c'est pas facile. Au début, c'est pas facile. Tu sais pas trop comment faire quand tu comprends pas trop les dynamiques de réputation, comment ça fonctionne, quand t'as jamais dû gérer ce genre de choses. Même avec la meilleure volonté, tu fais pas les bonnes choses, en fait. Donc, mais finalement, ça s'est très bien passé et on a délivré nos produits. Les gens étaient très contents.
Ok. Wistiki, c'est quand même un produit qui est complexe. Il y a du hardware, il y a du software, il y a du retail, il y a de la logistique. Là, on a parlé du hardware. Le software, c'est quelque chose que vous avez développé in-house ?
Alors, par la suite, oui. Au début, on a externalisé.
Pour que les gens comprennent, donc c'est Wistiki, objet connecté qu'on met sur des clés ou sur un chat, la taille d'une pièce de 2 euros, qui est relié à une application sur iPhone ou sur Android qui permet de localiser ce boîtier et donc son objet.
C'est exactement ça. Donc, il y a trois gros sujets techniques. Hein. Après, il y a d'autres sujets que le commercial est... Mais en tout cas, si on parle de la technique, il y a trois gros sujets techniques. Un, le hardware. On en a un petit peu parlé. On pourra en parler des heures, mais on en a un peu parlé. Deux, le software. On va en parler tout de suite. Et trois, la connectivité entre le hardware et le software. Car ça fonctionnait avec le Bluetooth. Le Bluetooth, c'était assez récent. Et la technologie en soi du Bluetooth, c'est une technologie qui n'est pas du tout évidente à gérer. Donc en fait, dans le hardware, t'as ce qu'on appelle du software embarqué. Donc tu dois coder dans ton hardware pour faire en sorte que la connectivité entre ton hardware et ton software soit la plus efficiente possible. C'est une troisième problématique qui est aussi un gros sujet. Mais en tout cas, au début, on a externalisé. L'applicatif, donc l'application iOS, l'application Android. On était passé par une agence française.
Parisienne,
tout à fait.
Ça s'est bien passé.
C'était compliqué. Je pense que voilà, on a découvert. Au début, on croyait que il fallait juste leur dire de faire l'application et qu'ils nous délivreraient l'application. Mais en fait, on a compris que en fait, quand tu as un prestataire aussi stratégique qu'un prestataire qui te fait ton application, qui est l'un des éléments centraux de ton produit, en fait, il faut le manager de très très près. Il faut le manager de très très près. Et en réalité, il faut avoir des connaissances de ce qu'il fait, ce qu'on n'avait pas au début. Donc, on a pris beaucoup de retard sur l'application et ça nous a amené à des situations parfois un petit peu délicates où en fait en réalité le hardware était prêt mais l'application n'était pas encore prête. Ce qui fait qu'on est arrivé dans des, à un moment, on est arrivé dans des magasins où on avait le hardware qui était là, mais pas encore l'application, tu vois. Donc,
Ok, incroyable. Et cette agence, comment ça s'était passé? Comment vous avez financé le développement de cette application? C'était avec le financement participatif?
Alors, en fait, donc, nous, on s'est financé par trois moyens au tout début, là, dans les deux, trois premiers mois de la boîte. T'as eu le financement participatif, je te dis, de 80 000 euros à peu près. On a eu quelques subventions, BPI, deux, trois autres choses. Un peu de dette aussi, ce qui est assez atypique. On a réussi à obtenir un petit peu de dette.
Auprès de qui?
Auprès de mon banquier. Personnel, tu vois. Je suis allé le voir et je lui ai dit, alors, la raison pour laquelle on a réussi à obtenir de la dette, c'est aussi parce que on a fait une petite augmentation de capital. Donc, on avait quand même un peu de fonds propres. Mm-hmm. En fait, pour la petite anecdote, quand j'ai quitté mon job, j'ai demandé à mes patrons de rentrer au capital. Donc, en fait, je leur ai dit, voilà, je vais démissionner et je vous offre l'opportunité unique, de rentrer au capital de ma société.
Attends, qu'est-ce que t'es en train de me dire? T'es en train de me dire que tu quittes ton job, ça fait 9 mois que t'es en poste. T'envoies un mail à toute ta boîte pour leur dire je pars, je vais monter une boîte, ça va être une licorne. Je me destine à ça. Mais par contre, si vous voulez venir rejoindre l'aventure, vous pouvez mettre de l'argent.
Mais en fait, c'est ça. C'est exactement ça qu'on a fait. C'est un peu fou. Hein. C'est un peu fou.
C'est complètement fou.
Mais sur le coup, c'est vraiment ça que j'ai fait. D'ailleurs, j'ai fait d'une pierre deux coups hein, parce que je crois que je lui ai dit en même temps que j'ai démissionné à mon boss. C'est-à-dire que dans la même réunion que je lui ai dit que je démissionnais, je lui ai proposé d'entrer au capital. Ce qu'il a fait.
Ok, et tu t'es dit ça sur le moment, c'est quelque chose que tu avais anticipé ou...
Ouais, quand même. Oui. Non, j'avais anticipé. Bah oui, je me suis dit... parce qu'on était quand même dans un cabinet de conseil en stratégie qui était... c'était quand même des entrepreneurs, tu vois. Ils avaient c'était l'ancien patron d'Oliver Wyman, Michel Zarka, un des ex-directeurs associés de McKinsey, qui s'appelle Philippe Duclos. Donc les deux, quand même, étaient eux-mêmes entrepreneurs. Tu vois, ils venaient de créer leur boîte de conseil, et je sais que c'était quand même dans leur ADN, tu vois, l'entrepreneuriat. Donc je me suis dit, ça pourrait faire sens. Et ils ont dit go. Ils ont dit go, et donc du coup j'ai fait rentrer globalement c'est mes deux boss actuels et mes boss d'avant en fait que j'avais eu dans des stages auparavant en fait. Donc on avait des fonds propres, tu vois. On avait des fonds propres et grâce à ces fonds propres, on a leveragé ça par de la dette. Donc on avait quand même, tu vois, peut-être en tout 300 000 euros au moment où on allait voir les agences pour faire l'application.
Vous vous êtes beaucoup dilué.
Voilà. Oui, quand même. Enfin non, raisonnablement, tu vois. Je sais plus c'était quoi la valo, mais ça devait être. C'était quand même pas une très grosse valo, hein. C'était pas une très grosse valo. Peut-être, je sais pas. 1,5 million, tu vois, c'était vraiment une petite valo. Alors, la valo a augmenté rapidement sur les tours d'après, par contre. Mais au début, vu qu'on avait vraiment... C'était quand même important pour nous d'avoir... vu qu'on était quand même trois jeunes qui avaient pas grand-chose d'autre que notre volonté et notre bagou, c'était quand même important pour nous d'avoir, parmi des actionnaires, des gens qui avaient un petit peu d'expérience, qui pouvaient un peu nous sortir la tête du guidon et nous aider sur la stratégie. Et du coup, on n'avait absolument aucun souci à, globalement, les faire rentrer sur une valo qui était... pas forcément très élevé parce que ça nous semblait critique et très important d'avoir cette petite augmentation de capital rapidement.
Surtout qu'à ce moment, si je me trompe pas, quand tu as quitté ton job, Wistiki, t'as presque levé de l'argent sur un PowerPoint, quoi.
Ouais, sur un PowerPoint, quand même, quand je pense que j'ai plus très bien en tête la chronologie, je pense quand même que quand on a levé, on avait plus qu'un PowerPoint parce que je pense qu'on avait quand même déjà un petit peu de traction sur My Major Company.
D'accord, donc c'est intervenu après.
Oui, quand même. Ça, je dirais que... Non, le moment où on avait vraiment principalement une vision, c'était quand on s'est lancé sur My Major Company. Et quand on a commencé à avoir une traction sur My Major Company, c'était l'un de nos objectifs. C'est là, en fait, que j'ai vraiment fait rentrer mes boss au capital et on avait quand même un rapport de force... si je me souviens bien, qui était quand même globalement en notre faveur, parce qu'il y avait justement plus que ça. Il y avait quand même quelques KPIs intéressants en termes de traction commerciale où on avait quand même une cagnotte qui augmentait de jour en jour sans aucun budget marketing. Donc, ça interpellait quand même les gens.
D'accord. Donc, il y avait quand même une traction.
Ouais, quand même.
Ok. Si on revient à cette histoire d'application, tu me disais pas très bien passé, beaucoup de retard.
Alors, l'application, je dirais pas que ça s'est pas bien passé. On a eu plein de rebondissements, en fait. Donc, déjà, c'était une agence parisienne, mais eux-mêmes, je crois pas qu'on le savait d'ailleurs au début, ils externalisaient une partie de l'applicatif à Madagascar.
Oui, comme beaucoup.
Comme beaucoup, mais je sais plus si on était au courant de ça, mais en tout cas, je sais que c'était une complexité qui n'était pas forcément prévue, mais en tout cas, les gens avec qui on avait signé étaient parisiens. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à un moment donné où on avait le produit qui était à la FNAC, dans les rayons, parce qu'on avait réussi à convaincre la FNAC de nous mettre dans les rayons, c'était décembre 2014, je m'en souviens très bien.
On avait un an après le lancement.
Oui, à peu près. On avait Apple qui nous refusait l'application sur le store au moment où les produits étaient dans les rayons à la FNAC, en sachant que nos produits ne peuvent pas marcher sans application. Et en fait, tous les développeurs étaient à Madagascar. En réalité, nous, on avait signé avec un gars à Paris, mais ils étaient à Madagascar. Et là, mon frère Hugo, dans un élan de lucidité, j'allais dire folie, mais lucidité, il est parti à Madagascar. Il est parti à Madagascar pour manager, pour faire le job En fait, en réalité, t'as des mecs à Paris, en fait, qui managent les développeurs à Madagascar parce que ça coûte moins cher. Je pense hein, que leur business model c'est ça. Et vu qu'on trouvait qu'ils faisaient pas bien leur boulot, bah, Hugo, il est parti lui-même à Madagascar sans demander l'avis à personne. Il a débarqué et pendant une semaine, il a managé en fait les développeurs à Madagascar pour en mode rush finaliser l'application et faire en sorte qu'elle soit conforme au cahier des charges d'Apple pendant que on essaie de trouver des moyens aussi au niveau du siège d'Apple qui est à Paris d'ailleurs. Pour accélérer le déblocage de notre application. Et tout ça, c'était un moment assez stressant, mais au final, ça a marché. Et en 3-4 jours, l'application a été débloquée, mais ça aurait pu durer 3 semaines, je pense, si on n'avait rien fait.
Donc les produits ont été sur les étagères pendant quelques jours, il n'y avait pas d'application pendant que ton chat était à Madagascar.
Je sais plus combien de temps, mais il y a eu un moment, il s'est passé ça à un moment. Je sais plus combien de temps ça a duré, mais au minimum une journée, il s'est passé ça.
Ok. Vous avez fait votre financement participatif, vous aviez un site e-commerce, à ma mémoire, à ce moment-là, ou qui est arrivé relativement après. Tu m'as parlé de la FNAC, donc là, vous passez dans le retail.
Oui. Bah alors là, on arrive donc là, on arrive dans une phase du projet qui devient véritablement la phase de commercialisation, en réalité. Et donc, à ce moment-là, on décide... la FNAC, ça cartonne, déjà. On est très rapidement l'objet connecté qu'ils ont vendu à la FNAC.
Ça veut dire quoi, ça cartonne?
Je sais plus, mais on en a vendu peut-être en un Noël, on en a vendu 30 000, tu vois, donc c'était énorme. C'était vraiment des quantités énormes.
C'était un objet qui était à côté des caisses, type Smartbox, ce genre de choses?
On était dans le rayon objet connecté, très rapidement ils ont dû nous mettre aux caisses, aussi parce que ça marchait bien. Et je me souviens que ce produit avait même été tellement je me souviens que les acheteurs ne comprenaient même pas comment c'était possible en fait que le produit se vende comme ça si bien, que d'autant que les acheteurs Fnac nous avaient même demandé mais qu'est-ce que vous faites, c'est quoi votre marketing pour et nous on leur avait dit mais en fait notre seul marketing c'est de faire des RP, en fait on fait que des RP, on a zéro budget marketing, on fait que des RP et c'est comme ça qu'on vend nos produits, en fait on a pas de budget marketing.
L'aspect made in France et l'aspect communautaire a joué, tu penses?
Ouais, forcément. L'histoire aussi, l'histoire de Wistiki, je pense que les choses qui ont joué, c'est un, que nos produits répondaient à un besoin. Faut vraiment pas oublier ça. Je pense que 2014, c'était aussi un moment où il y avait plein d'objets connectés qui se lançaient. Et en fait, il y en avait pas forcément beaucoup qui répondaient à des besoins du quotidien. Et nous, on l'a pris dans l'autre sens, en fait. Nous, on n'avait jamais voulu faire un objet connecté, en fait. Hein. Jamais. On a voulu faire un objet qui répondait à un besoin. Il se trouve qu'on a fait un objet connecté.
Un besoin, et c'est ça qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que c'est un besoin qui vous était propre, mais en fait qui est relativement universel, perdre ses clés ou perdre son animal. Et en complément de quoi, vous êtes lancé sans avoir exploré, sans avoir fait de recherche utilisateur.
Oui. Oui. Oui.
C'était vraiment un pari dingue.
Non, je pourrais te dire, hein, ouais, on a fait des recherches. Mais en vrai, non, on n'en a pas fait.
C'est de l'intuition.
C'était intuitif. Je pense que c'est risqué, hein. C'est pas du tout rigoureux. C'est pas du tout rigoureux, mais c'est ce qui s'est passé. En fait, on s'est dit que notre étude de marché, ce serait le crowdfunding. En fait. Donc en fait, quand je dis qu'on n'a pas fait d'études de marché, c'est pas vraiment
oui,
le
la,
cas.
Oui, mais l'attraction était présente.
Parce qu'en fait, en réalité, on a eu une intuition.
Ouais.
On s'est lancé de manière intuitive en abandonnant tout. Mais quand je dis qu'on n'a pas fait d'études de marché, en fait, je rectifie, c'est faux. On a fait la meilleure étude de marché qui soit. On a fait un crowdfunding et en fait, on a prouvé par la loi du chiffre d'affaires et par le fait que des milliers de consommateurs nous ont dit qu'ils y croyaient et qu'ils achetaient que notre produit fonctionnait. Et nous, on s'était dit, il y a deux possibilités. Soit on n'atteint pas la cagnotte qu'on dit qu'on va atteindre et le projet ne se lancera jamais et on rend l'argent à tout le monde. Soit on l'atteint et on a fait la meilleure étude de marché qui soit.
Ok, donc c'est vraiment fake it until you make it. Quoi.
Oui, c'est fake it until you make it, sauf que le principe du financement participatif, c'est que tout le monde le sait. C'est dit, c'est noir sur blanc. Les gens savent que c'est fake it until you make it. Et ils savent que c'est que de toute manière, si tu n'atteins pas l'objectif, les gens vont récupérer leur argent. Donc c'était vraiment win-win pour tout le monde.
Ok. Si on revient à cette histoire de la FNAC, comment vous avez fait pour vous faire référencer chez la FNAC en moins d'un an?
Écoute, je pense qu'on a contacté, je sais plus exactement la FNAC comment ça s'est passé, mais globalement on a dû harceler sur LinkedIn tous les acheteurs de tous les réseaux de grande distribution. Et nous on avait quand même la FNAC dans le collimateur en particulier, donc on a vraiment focusé notre attention sur la FNAC dès le début parce que c'était le plus gros retailer. Et on savait que si ça cartonnait la FNAC, globalement les autres voudraient notre produit. Et globalement, hein, quand tu te lances. Que ce soit pour l'industriel ou pour le premier industriel que tu convaincs ou alors le premier retailer, acteur de la grande distribution que tu convaincs, ce qu'il faut, c'est que les gens, ils embarquent dans ton aventure. Parce qu'en fait, en réalité, tu n'as rien prouvé. La seule chose que tu as, c'est toi. T'es là, avec ta volonté, ta niaque, le rêve que tu peux vendre et il faut que les gens y croient dans ta capacité d'exécution et dans le fait que tu vas convertir ton rêve en une réalité. Et c'est que ça, en fait, le début. Donc, en fait, la FNAC, à un moment, on a eu un interlocuteur qu'on a convaincu. Et voilà, on lui a dit, ça va être l'objet connecté de l'année. Ça répond à un besoin. Les autres objets connectés, la plupart, ils répondent pas à un besoin évident. Nous, on va être l'objet connecté le moins cher. On était à 25 euros quand on s'est lancé, tu vois. Je sais pas, le moindre objet connecté coûtait 100 balles. Donc nous, on leur a dit, ça coûte 25 balles. Ça répond à un besoin évident. Là, on le fait pour les fêtes de Noël. On va se lancer pour les fêtes de Noël. Enfin, tout le monde connaît quelqu'un qui est étourdi, donc c'est rigolo comme cadeau. Et à un moment, on a un acheteur qui a dit, allez go, vas-y, c'est bon, je t'en prends 500.
Ok, et ça, vous avez aussi réussi à le faire parce que vous aviez anticipé votre prod, ce que tu me disais tout à l'heure.
Ouais,
alors... Produire 10 000 plutôt que 4 000.
Bah, c'est là où ça devient rigolo. Là, t'as un acheteur qui dit, je t'en prends 500 et je vais faire un test sur 5 magasins. Et là, tu dis, bah non, c'est pas possible. Tu vas m'en prendre 10 000 et tu mets ça sur toute la France. Et c'est là où faut vraiment être convaincant. Parce que, tu sais, nous, on s'est lancé, je crois, le 1er décembre ou fin novembre, début décembre. Donc, en gros, on avait une fenêtre de tir de 3 semaines, tu vois, pour écouler nos produits. Et on savait très bien que s'il faisait son test sur 5 magasins, en gros, il pourrait te dire le 10 janvier, allez, c'est bon, ça marche.
Pas possible.
Et en fait, on allait rater Noël. Donc, nous, on lui a dit, non, mets-nous dans tous les magasins de France et éventuellement, on fait des accords de retour. C'est-à-dire que si tu les as pas vendus, pour les fêtes, on te les reprendra. Je pense qu'on avait dû négocier un truc comme ça. Et on a réussi à en fait être très rapidement, un mois avant Noël, dans toutes les FNAC de France, très bien placés, en tête de gondole et tout. Et là, notre intuition était bonne, en fait. Notre intuition était bonne. Et moi, je me souviens très très bien. C'était le 10 janvier 2015, donc je m'en souviens très très bien. Où on a écoulé tous les produits pour Noël et où on a un réassort automatique de la FNAC pour, je sais pas, un truc genre 20 000 produits, tu vois. Réassort automatique des robots de la FNAC.
Que vous n'aviez pas
on les avait. Non, parce qu'on avait anticipé le succès, en fait. En fait, ma philosophie à ce moment-là, c'était qu'il y avait le pire échec qui soit, c'était de ne pas anticiper le succès, tu vois. C'est vraiment le pire truc. Ma plus grosse hantise, c'était de ne pas anticiper le potentiel succès qu'on pourrait avoir. Donc en fait, non, on les avait. C'est juste, c'était fou de les avoir, en fait.
Toute cette confiance, elle vient aussi de ce financement participatif qui vous a prouvé qu'il y avait une traction et que le modèle fonctionnait. Parce que c'est des gros paris, quand même.
Oui, c'était des gros paris financiers. C'était des gros paris financiers. On parle vraiment de plusieurs centaines de milliers d'euros de composants qu'on achetait, tu vois. C'est-à-dire que si tu vends pas tes produits, c'était juste des composants, quoi. Donc c'était clairement un pari. Et dans le hardware, c'est ce qui est compliqué de manière générale. Hein. Là, je te parle des débuts, mais après, quand tu parles de centaines de milliers de produits, ce qui est ce qu'on a vendu par la suite, et que tu dois ensuite anticiper tes ventes, en sachant qu'on est quand même sur un marché cyclique où il y a des modes, tu vois. Le hardware, il y a de la mode aussi, tu vois.
Oui, il y a c'est-à-dire, de la mode.
Il y a
de la saisonnalité.
Ouais,
aussi.
C'est ça. Il y a des années, ça marche mieux. Il y a des moments, ça marche mieux. Tu peux pas forcément savoir si tel Noël va mieux marcher qu'un autre. Et ton cycle entre le moment où tu commandes tes composants et le moment où ton produit il sort d'usine, c'est 6 mois, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'en juin, tu dois savoir combien tu dois en vendre à Noël. Et t'imagines pour financer ce BFR de 6 mois. Quand t'as des centaines de milliers d'euros de produits, c'est des millions d'euros. Donc après, les enjeux deviennent de plus en plus importants. C'est pour ça que le marché du hardware est très dur, très compliqué.
Aujourd'hui, Wistiki, tu disais des centaines de milliers, c'est un peu plus de 500 000 exemplaires qui ont été vendus.
C'est à peu près ça, ouais. Ouais.
Partout dans le monde.
Partout dans le monde. On en a principalement vendu en France, mais on a quand même, on s'est bien internationalisé. Hein. On a un très gros marché qui est le Japon. On s'est lancé au Japon juste après la France.
Vous avez ouvert des bureaux là-bas ?
On n'a pas ouvert du bureau. À un moment, on a brièvement ouvert des bureaux aux États-Unis, mais on s'est rendu compte que le modèle où on ouvre des bureaux, c'était pas forcément pertinent. Du coup, on a tout centralisé en France. Par contre, on a des acteurs dans chacun des pays les plus stratégiques où on vend nos produits, qui sont des acteurs qu'on considère comme stratégiques, à qui on délègue quand même pas mal de choses, notamment les aspects marketing, et ils nous gèrent ça pour nous.
D'accord, quand tu dis acteurs, c'est des distributeurs.
Ça va être des distributeurs, mais des distributeurs qu'on choisit de manière très attentive. Hein. Tu vois, au Japon, par exemple, on a le même distributeur que Fitbit. Donc, tu vois, c'est des distributeurs. C'est pas ce qu'on appelle... Il y a plusieurs types de distributeurs. Je veux pas trop rentrer dans les détails, peut-être.
J'aimerais bien, mais on fera un épisode.
Et voilà, en gros, t'as ce qu'on appelle des box movers. T'as des distributeurs qui vont juste vendre tes produits. Et t'as des distributeurs qui vont également avoir... vocation à t'aider sur ton marketing, vraiment à transformer ton marketing français en un marketing japonais pour vraiment t'assister dans toute cette démarche. Et nous, on travaillait plus avec ce type de distributeur.
D'accord, des distributeurs comme ça, ça coûte plus cher, j'imagine.
Ils prennent plus de marge.
Oui, bien sûr. Quand on s'est vu il y a 10 jours, on a dîné ensemble. tu m'as raconté une histoire. Je me suis dit, ce mec est fou, c'est pas possible. T'as Stéphane Richard et Xavier Niel au capital de Wistiki aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire comment t'as cherché ces deux personnes?
Alors, on a Martin Bouygues aussi en réalité.
Martin Bouygues aussi, oui, c'est vrai, tu me l'avais dit.
Mais bon, on les a pas tous, ils sont pas tous rentrés en même temps au capital. Le premier à être rentré au capital, c'est Stéphane Richard. Et globalement, on a connu Stéphane Richard. Parce que Théo était stagiaire chez Orange à un moment et globalement il a trouvé le moyen en tant que stagiaire chez Orange à un moment d'attirer l'attention de Stéphane Richard et de faire en sorte que qu'il connaisse Wistiki en fait, qu'il connaisse Wistiki.
Comment il a attiré son attention ?
Écoute, faudrait lui demander. Je sais plus comment il a fait, mais en tout cas il a trouvé le moyen. Voilà, de lui parler de Wistiki, de lui expliquer comment tout ça fonctionnait. Je pense qu'il avait, il connaissait également, je pense, le fils de Stéphane Richard. Donc, il avait trouvé un moyen d'accéder à Stéphane Richard. Voilà, mais en tout cas, il a eu un moment l'opportunité de parler à Stéphane Richard. Et Stéphane Richard a dit, allez, let's go, votre projet a l'air super sympa, je mets un peu d'argent, et ça s'est fait comme ça.
Donc il était stagiaire chez Orange et il a réussi à se retrouver dans le bureau de Stéphane Richard pour lui présenter Wistiki.
Globalement, c'est ça. Globalement, c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Et Stéphane Richard est rentré assez tôt. Hein. Il est rentré d'ailleurs, si je ne me trompe pas, dans la toute première augmentation de capital. Hein,
qui était en
En 2014.
D'accord, donc la boîte avait un an. Et t'avais Stéphane Richard comme investisseur.
On avait Stéphane Richard qui était actionnaire à titre individuel au capital de Wistiki. Et ensuite, par la suite, on a réussi à convaincre d'abord, non, à peu près en même temps, Xavier Niel et Martin Bouygues, enfin la famille Bouygues de manière plus générale, de rentrer au capital de notre société, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est assez rigolo parce que ils sont les trois au capital de au capital de Wistiki, ce qui est assez atypique. Mais en réalité, s'ils sont rentrés au capital, il faut quand même, c'est quand même important de parler de quelque chose au-delà du fait que c'est assez rigolo que les trois soient au capital. nous, la volonté de Wistiki, au-delà de faire des trackers Bluetooth, c'est également de créer un réseau. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas si tu te souviens au début, nous, le principe de Wistiki, c'est que toutes les personnes qui téléchargent l'application Wistiki sur leur smartphone deviennent des antennes Bluetooth. Donc en fait, on a vocation à être un réseau GPS, donc communautaire.
Quoi de mieux que des opérateurs téléphoniques pour
c'est ça. Tiens. C'est qu'en fait, le concept les a intrigués, en réalité. Ça a été génial que ces acteurs de renom rentrent au capital de Wistiki, parce que c'est en effet ensuite convaincu d'autres gens de rentrer au capital.
T'as eu froid le soir où t'as attendu Xavier Niel ?
Comment ?
T'as eu froid le soir où t'as attendu Xavier Niel ?
Ah, le soir où on a essayé d'aborder Xavier Niel à la sortie de Free.
Oui.
Ouais, on a abordé Xavier Niel à la sortie de Free il y a à peu près 3 ans avec mon frère, et on lui a pitché Wistiki à la sortie de Free, et c'est comme ça qu'il nous a mis en relation avec Jean de La Roche-Brochard qui est toujours d'ailleurs patron de Kim Adventures, et il a dû dire à Jean écoute, regarde ces mecs, ils ont l'air d'être un peu culottés, et c'est comme ça que Xavier Niel est rentré au capital par l'intermédiaire de son fonds d'investissement Kim Adventures.
D'accord. Le temps passe un petit peu, vous faites le CES à Las Vegas.
Ouais, le CES de Las Vegas, on l'a fait dès 2015. On a fait 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. L'année dernière, on l'a pas fait en réalité, parce que attends. Non, on l'a pas fait l'année dernière, en réalité. Donc, on a fait 4 ans le CES. On a eu des stands de plus en plus gros. À la fin, on avait un énorme stand au CES. Et donc, le CES, moi, j'ai un avis qui est différent de l'avis de celui que j'avais au début. C'est génial pour le buzz, le CES, en fait, parce que quand tu dis que t'es au CES, tous les journalistes reprennent, tu fais un petit peu de relations presse. Donc pour ça, c'est super.
Et l'aspect business ?
L'aspect business, en fait, en réalité, je suis un tout petit peu plus mitigé. C'est la raison pour laquelle on a fini par ne plus y aller. Parce qu'en fait, on avait des budgets de plus en plus gros, ça coûte de plus en plus cher d'aller au CES. Et à la fin, on s'y retrouvait tout simplement plus, en fait, d'un point de vue business. Car quand t'as un gros stand de CES, c'est un budget de plus de 100 000 balles. Hein. Quand tu veux ramener, parce que tu dois ramener du monde quand même pour tenir le stand en soi coûte cher, donc pour amortir ça, c'est quand même il faut le faire, et en fait on s'y est tout simplement plus retrouvé, donc on l'a plus fait. Mais le CES pendant plusieurs années, c'était très intéressant, surtout d'un point de vue média, hein. J'insiste là-dessus, c'est vraiment d'un point de vue médiatisation qu'on a eu le plus de retombées pour les CES. D'un point de vue business, on a eu des retombées évidemment, mais quand même pas tant que ça en réalité. Pas tant que ça. T'as quand même pas mal de tourisme, je trouve, qui se balade de CES, donc c'est pas forcément évident de faire le tri.
Et marché américain, pas si intéressant que ça pour vous. C'est ce que tu me disais, vous avez essayé de rentrer aux États-Unis et vous en êtes ressorti.
Alors, on est toujours aux États-Unis.
Vous êtes toujours aux États-Unis.
On est toujours aux États-Unis, mais c'est un marché qui est très coûteux à pénétrer. Tout de suite, quand tu veux te lancer dans une chaîne de la grande distribution, c'est des millions d'euros, tu vois, d'investissement marketing.
Pour être bien implanté.
Juste pour être implanté, tu vois, les mecs vont te dire, ouais, t'as 1 million de frais de dossier. C'est les ordres de grandeur, tu vois. T'as 1 million de frais de dossier, 2 millions pour gérer un petit peu de PLV dans les magasins, pour bien mettre ton produit en valeur dans les têtes de gondole. Tu vois, Walmart, c'était les ordres de grandeur. Hein. Donc
c'est pas pour tout le monde.
Donc voilà, c'est très coûteux. Donc nous, on l'a pas fait comme ça. On l'a fait de manière un petit peu plus détournée. On a décidé de se mettre dans des enseignes un petit peu plus premium, comme le MoMA, tu vois. On était présent au MoMA à New York, dans les enseignes Urban Outfitters, donc des enseignes un petit peu plus premium, qui coûtaient un petit peu plus moins cher. Un petit peu moins cher, pardon, excuse-moi. Et toujours aujourd'hui, on est présent hein, aux États-Unis, sur Amazon aussi notamment, et ça marche bien. Mais nos efforts de déploiement, on les a concentrés sur d'autres pays que les États-Unis.
Comme le Japon,
où là vraiment on a mis des moyens. Hein. On a dépensé beaucoup d'argent au Japon, d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial. On a dépensé des millions d'euros pour se déployer au Japon. Et aujourd'hui, c'est un très gros marché pour nous. On est présent dans la plupart des acteurs de la grande distribution au Japon, et on regrette pas notre choix parce que justement, ce marché est bien moins cher à pénétrer. Et en fait, c'est un énorme marché. Le Japon. C'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent, en fait. La plupart des gens, ils se disent, je vais aller aux États-Unis. Et nous, on s'est juste dit, pourquoi on n'irait pas au Japon?
Pourquoi vous iriez pas au Japon?
Ah ouais, pourquoi pas?
Sur quels critères vous êtes parti au Japon?
Alors, le Japon, je vais te dire, c'est un de nos actionnaires qui nous a suggéré d'aller au Japon. On a parmi nos actionnaires Fabrice Brégé, qui était patron d'Airbus jusqu'à il y a quelques semaines, et qui vend des Airbus, des avions, et on vend un peu partout, notamment au Japon, donc il connaît un peu le Japon. Et un jour, il nous dit, les gars, franchement, votre produit, vous devriez aller au Japon. Ça cartonnerait, votre truc est made in France, c'est électronique. En plus, par la suite, notre produit a été designé par Stark. Je l'ai pas dit, mais pour la petite anecdote, le petit carré blanc, le tout premier produit, était designé par notre mère. Hein, ce qui est, donc c'était vraiment une affaire de famille.
C'est vraiment une affaire de famille.
Donc c'était vraiment quand même. Je tiens à le préciser parce que c'était vraiment notre mère était particulièrement impliquée aussi au début. Mais par la suite, le produit a été designé par Philippe Stark. Il nous dit, voilà, votre produit est designé par Philippe Stark. Les Japonais adorent Philippe Stark. Donc, franchement, intuitivement, je pense que vous devriez aller au Japon. Et on a tout simplement suivi ses conseils. Et ce qu'on s'est dit, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est on va faire une étude de marché. Et c'est quoi la meilleure étude de marché?
Financement participatif.
Donc, du coup, on a fait un financement participatif au Japon et on a fait le plus gros financement participatif de l'histoire du Japon. Ce qui est absolument vraiment là, par contre, ça vraiment, c'était vraiment complètement incroyable. Je pense vraiment qu'au final, on a plus buzzé au Japon qu'en France. Enfin, on a fait des conférences de presse au Japon. Je pourrais t'envoyer les vidéos, tu mettras en lien si tu veux. Où t'as des centaines de journalistes qui nous prennent en photo. Enfin, ça n'avait juste aucun sens parce qu'en fait, les Japonais, ils ont adoré le concept que toute l'histoire soit née autour de notre chat. Donc en fait, on a tout tourné autour de ça, parce qu'en fait, c'est toutes les sociétés au Japon. En fait, les sociétés au Japon, elles ont toutes des...
mascottes.
Des mascottes. Elles ont toutes des mascottes. Et c'est un truc qu'on connaît pas du tout en France. Et du coup, nous, on a eu cette intuition, on s'est dit, vu qu'elles ont toutes des mascottes, les sociétés, on va vraiment mettre notre chat en valeur. Mais ils ont adoré.
Donc ils ont tous acheté des Wistiki pour mettre sur les chats. Ou sur leur mascotte, en tout cas.
Principalement pour les chats. Donc en gros, le combo chat, Stark, Made in France, trois frères. Le storytelling a vraiment très bien marché en France, au Japon. Pardon. Et ça a super bien marché. Mais tu vois, il y a d'autres pays où ça a bien moins bien marché, tu vois. Tu vois, ça, c'est les paris qui ont marché. Après, il y a d'autres paris qui ont moins bien marché. Il faut en parler aussi. Tu vois, par exemple, on s'est dit, si ça marche au Japon, c'est que ça marchera à Taïwan. Parce que Taïwan, Corée du Sud, Japon, on s'était dit ça doit être des marchés assez similaires. Et Taïwan, ça a été un énorme fail, tu vois. Énorme fail.
Pourquoi?
Je sais pas. C'est pas forcément évident. Hein. Tu sais, j'ai pas forcément les réponses. Ça a pas marché.
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes arrivé, vous avez essayé de faire du financement participatif?
On a cherché pareil. Alors, on n'a pas fait de financement participatif là-bas, parce qu'il y avait vraiment même pas d'acteurs de financement participatif. Mais le truc a moins bien marché. Alors après, pourquoi? Peut-être parce que le pouvoir d'achat est plus faible. Peut-être parce qu'il y a une influence chinoise qui est plus importante et donc du coup une culture japonaise moins importante. Je sais pas. Mais ça a moins bien marché. Donc tu vois, c'est pas forcément toujours évident de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Ce que je sais, c'est que ça a cartonné en France et au Japon. Ça a un peu moins bien marché à Taïwan et aux États-Unis. Et voilà.
Taïwan, vous êtes reparti aussi vite que vous êtes arrivé.
Ouais, après faut être réactif. Quand il y a un truc qui marche pas, tu sors direct. Tu te prends pas la tête. En gros, il faut tester un peu partout. Quand il y a un truc qui marche, tu mets toute ton énergie dedans. Quand il y a un truc qui marche pas, tu ressors vite.
Donc avec peu de conséquences.
Le moins de conséquences financières possibles. Il y en a toujours un petit peu dans le hardware. Hein. T'as un produit qui est physique. Donc, ton produit, il faut le livrer dans le pays en question. Il faut le certifier selon le pays en question. On pourrait rentrer dans les détails, hein, mais toi, là, on a parlé du hardware, du software. Ensuite, t'as le soft embarqué. Ensuite, t'as le retail. Ensuite, t'as la logistique. Ensuite, t'as les certifications.
Logistique, c'est quelque chose que vous aviez internalisé ou vous êtes passé par un logisticien?
On est passé au début, on l'a internalisé. On faisait tout nous-mêmes. Et rapidement, quand tu vends des centaines de milliers de produits, t'es obligé d'externaliser. T'es obligé d'externaliser, mais après t'as la douane. Tu sais, quand tu vends ton produit partout dans le monde, même si tu vends dans certains pays juste 50 produits, bah il y a une certaine législation dans ce pays par rapport à la douane. Donc en réalité, c'est tu touches à vraiment beaucoup de choses quand tu fais un produit hardware connecté.
Aujourd'hui, Wistiki, vous êtes une quinzaine de personnes?
À peu près.
Ok. V0, le prototype qui faisait 25 cm par 25 cm. V1, le Wistiki qui a été designé par ta mère. V2, Philippe Stark, Qu'est-ce que ça vous a apporté, Philippe Stark? Pourquoi avoir fait un partenariat pour faire designer le produit avec Philippe Stark?
Écoute, une fois que le premier produit a bien fonctionné, le petit carré blanc, on l'a vendu à peu près à 50 000 exemplaires, on s'est dit, en fait, ce serait bien désormais qu'on ait un produit, qui soit un produit design, tu vois, joli, qu'on puisse en faire un élément de mode, et non plus juste qui répond à un besoin, mais qui ait également cet aspect où les gens pourraient être vraiment contents de le mettre à leur clé, que ce soit vraiment beau. Et ensuite, on s'est dit, ce serait intéressant de repenser notre produit par l'usage. Donc, en fait, avec Philippe Stark, on a travaillé non plus un produit, mais une gamme d'objets connectés selon les usages de perte de ses affaires.
Dont la carte à mettre dans le portefeuille.
Voilà. Donc, en fait, on a fait un premier produit format rectangulaire pour mettre sur ses clés. Un deuxième produit format rond pour mettre sur son animal de compagnie. Et un troisième format carte de crédit pour mettre dans son portefeuille. 1,5 mm d'épaisseur. Donc celui-là, c'était vraiment un vrai travail de R&D pour faire ce produit. Et du coup, on a vraiment repensé la vision de Wistiki par rapport à ces trois usages. Et on s'est dit que vraiment, Stark pourrait aussi nous aider dans notre démarche d'internationalisation, ce qui a été le cas, tu vois.
De par la renommée.
Ouais, je pense qu'on doit beaucoup, et la manière dont il a designé nos produits, et également, on doit beaucoup à la marque de Stark pour le succès que le produit a eu au Japon.
La relation avec lui, c'est sur la durée, il est toujours impliqué.
Ouais, super. Non, franchement, Philippe Stark, c'est vraiment quelqu'un qui est super sympa, très humble, très sérieux, très rigoureux. Rien à redire sur la relation qu'on a pu avoir avec lui. Il s'est impliqué, il a fait des vidéos avec nous, des photos avec nous pour nous aider sur tous les aspects de communication. Donc non, on est vraiment satisfait par ce partenariat.
Une vraie valeur. Ok, je sais que t'es en train de sortir opérationnellement de Wistiki aujourd'hui.
Yes. Bah en fait, nous on a eu l'opportunité il y a quelques temps de céder, de revendre quelque part mes actions et moi, mes frères et moi, pardon.
C'est-à-dire revendre quelque part?
Oui, c'est ça, on a revendu quelque part. Ensuite, il y a eu une petite réorganisation du capital.
Vous avez revendu...
C'était il y a 2 ans, ça. On a revendu... C'est pas forcément public ce qu'on a revendu, mais on a revendu...
D'accord, je voulais creuser.
Voilà, on a revendu, en tout cas, une partie de la société. À la suite de ça, Hugo et moi, en gros, on a co-dirigé la boîte pendant à peu près 2 ans. Et aujourd'hui, on arrive à un moment où on s'est dit que c'était important de se réorganiser pour vraiment être le plus efficace possible d'un point de vue organisationnel. Et on a décidé avec mon frère que c'était lui qui serait désormais le CEO pour vraiment... parce qu'en fait, si tu veux, on était un petit peu un dragon à deux têtes, en gros, depuis 2 ans. Où, en gros, Hugo et moi, on est tous les deux leaders dans l'âme, tu vois. Et en fait, parfois, ça prend plus de temps de brainstormer à deux sur... c'est quoi les compromis qu'on va faire pour on tombe d'accord sur une décision à implémenter plutôt que en fait tout simplement qu'il y a un seul boss, quoi, qu'il y a un seul boss tout là. Et donc du coup Hugo aujourd'hui est CEO depuis quelques mois désormais. Moi je suis toujours très impliqué dans Wistiki, je suis au comité stratégique, j'ai été CEO pendant 6 ans de Wistiki quand même, donc c'était aussi moi ça me fait aussi un peu du bien de me dire voilà, c'est désormais c'est Hugo qui va prendre les rênes de la société. Moi je suis au board et je peux potentiellement à tout moment repartir sur un projet entrepreneurial de fou tout en restant impliqué dans la société que j'ai cofondée et dans lesquelles il se passe toujours des trucs de fou, notamment tu vois là on peut en parler rapidement si tu veux, mais non oui, on est dans une démarche actuellement de se lancer à fond dans le B2B pur. Donc tu vois, on est en train d'intégrer la technologie de Wistiki en marque blanche dans des produits d'autres marques. Tu vois, on a signé avec Lacoste récemment pour que dans toute leur petite maroquinerie, ils puissent faire des produits imperdables en marque blanche, powered by la technologie Wistiki. Donc tu vois, on est vraiment dans un nouveau moment de Wistiki, où on est un petit peu en train de légèrement pivoter vers cette vision-là. Et du coup, ça faisait sens dans le cadre de cette orientation stratégique d'en profiter pour se réorganiser. Et c'est absolument passionnant.
C'est un choix, ce pivot, ou c'est Lacoste qui est venu vers vous pour implanter ça?
Bah, c'est les deux, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a énormément d'acteurs B2B qui viennent nous voir depuis le début de Wistiki pour nous dire, j'aimerais bien intégrer
une vraie demande, okay.
Dans mes propres produits. On l'a pas fait parce que au début, on se concentrait à fond sur le retail. Et aujourd'hui, on le fait parce qu'on pense qu'il y a une opportunité unique de se positionner sur ce marché qui est colossal, tu vois. Et potentiellement, il y a énormément d'entreprises qui peuvent être intéressées par rendre ses propres produits imperméables. Enfin, c'est juste énorme. Donc Hugo, il se concentre avec ses équipes sur ça aujourd'hui.
Ok. Qu'est-ce que c'est tes projets de fou pour la suite?
Écoute, aujourd'hui, je sais pas encore. Je sais pas encore. J'ai plein d'idées. Il est vraisemblable que je me relance dans une démarche entrepreneuriale.
À l'intuition.
Intuitivement, je sais pas. Non, vraiment, sincèrement, si j'avais, là, je suis.
Parce que vous êtes quand même très intuitif. J'ai vu ça tôt.
Non, on verra. Je rencontre pas mal de gens. Je discute avec des gens, à la fois dans des startups, mais également dans des grands groupes, hein, parce qu'il y a pas mal de démarches entrepreneuriales qui peuvent se faire également dans des grands groupes. Je suis dans des discussions aussi, voilà, avec une grande diversité d'acteurs. Je me ferme aucune porte. Je me suis jamais fermé aucune porte dans ma vie. Donc, toi, je te dis. Voilà, intuitivement comme ça, je te dirais là, c'est possible que je recrée ma boîte, mais peut-être je vais faire autre chose, tu vois. Ça se trouve, dans 6 mois, je suis salarié dans un grand groupe, j'en sais rien. Enfin, franchement, pour moi, la vie, c'est vraiment ça, tu vois. J'attends le fameux alignement des planètes. En attendant, je discute avec plein de monde, je réfléchis, je brainstorm, j'ai des activités de conseil à côté dans lesquelles on a pu être impliqués ensemble pour aider, voilà. J'aide des corporates dans leur démarche d'entrepreneuriat, j'aide des start-upers qui cherchent à lever des fonds. Voilà, en attendant, je suis dans cette démarche et ça me plaît beaucoup. Mais je pense que c'est transitoire et que rapidement, je vais me relancer dans une aventure entrepreneuriale.
Ok, mais on manquera pas de te suivre. Merci Bruno.
Merci à toi.
Merci d'être arrivé jusqu'ici. Si l'épisode vous a plu, partagez-le à 2 personnes autour de vous et laissez-nous 5 étoiles et un commentaire. Ça va beaucoup nous aider à faire connaître ce podcast. Aussi, si vous avez des besoins d'accompagnement sur vos projets innovants, n'hésitez pas à contacter Start the Fuck Up. Il vous suffit de nous écrire à contact@stfu.pro. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à très bientôt.